morning, dear colleagues.
Bonjour, chers collègues. J'espère que vous allez tous bien et c'est un plaisir d'être parmi vous à nouveau. Nous allons démarrer notre réunion suite à ce qui était déjà prévu, c'est-à-dire nous écouter les uns les autres et pouvoir établir et montrer nos positions communes par rapport au domaine du futur de l'Europe. Vous avez tous maintenant les informations concernant la réunion du Conseil. Donc, nous avons parlé de la plateforme qui a été déjà approuvée, le règlement également du Conseil exécutif qui a été approuvé, et la troisième proposition qui, elle, n'était pas de la table du Conseil exécutif de la présidence, mais plutôt une proposition du Parlement, du représentant du Parlement européen, Guido Hallstein. Et nous avons eu un grand débat face à cela. Et nous n'avons pas effectivement obtenu le consensus entre les trois institutions, mais également de la part du Conseil, plutôt quelques réserves ont été soulevées. Alors, l'objectif de cette réunion pour aujourd'hui, c'est justement pouvoir écouter les différentes sensibilités et opinions des parlements nationaux de façon à ce que nous, en tant que Troïka, le Parlement portugais de Slovénie et de l'Allemagne, pouvoir donc obtenir des informations pour pouvoir aborder donc ces matières en termes de consensus, ou alors en tout cas être le porte-parole des parlements nationaux par rapport aux différents domaines de son exclusivité. Voilà, sans trop m'attarder, je vais maintenant demander aux collègues de la Troïka de la Slovénie et de l'Allemagne, Marco Paskis et Boinkis et Richtenkust et Guido, je vais leur demander donc de compléter cette introduction, mon introduction, suivie ensuite par nos collègues qui ont demandé la parole. Alors, chers collègues de la Troïka, est-ce que quelqu'un souhaite compléter un petit peu mes pensées, mon introduction?
Ok. Pediu a palavra o Bundestag, que hoje...
Le Bundestag, représenté par Markus Stanz. On ne s'est pas encore rencontré, mais c'est un plaisir de pouvoir te donner la parole. Merci beaucoup. Alors, moi aussi, je souhaiterais remercier la présidence portugaise pour cet engagement. C'était un plaisir, effectivement, d'être ici parmi vous aujourd'hui. Alors, nous avons établi ce contact à travers ces nouvelles technologies qui sont disponibles. Alors, un aspect qui est important et qui n'est pas inclus dans cette proposition et que mon collègue a déjà mentionné, au sujet de la réunion du comité exécutif le 7 avril. La participation des gouvernements et notamment des Balkans occidentaux. Alors, la proposition qui a été lancée également par Guido Verhofstadt et notamment avec la participation des citoyens de la part de ce groupe. Alors, nous pensons que c'est effectivement quelque chose d'assez compliqué, difficile pour l'Union européenne, la représentation des différents États. Et pour cette conférence, eh bien, nous espérons de pouvoir participer également davantage dans d'autres réunions futures. Alors, ce sont effectivement des représentants des parlements nationaux qui seront également représentés, et ce seront eux également qui pourront effectivement défendre cette position ou cette action parlementaire des Balkans occidentaux. Ce sont des observateurs, notamment du COSAC, et donc qui ont lancé des contributions très importantes, il me semble. Donc, je souhaiterais effectivement défendre ici cette possibilité de pouvoir inviter les représentants des gouvernements et du Parlement, également de ces États des Balkans, et également de pouvoir avancer avec ces procédures en ce qui concerne les... Donc cette invitation doit être lancée par le comité exécutif de la conférence. Et un autre aspect important également par rapport à ceci, nous voyons effectivement comment établir ces différentes les questions des comités. Alors, nous tous, nous savons que dans nos parlements nationaux, les comités et le travail parlementaire qui se fait, et c'est là que les tâches et les débats sont faits, là où des solutions sont également trouvées et avancées avec des propositions. Alors, c'est la raison pour laquelle les changements à l'article 20 du paragraphe 3 sont importantes. Les groupes de travail, également pour les comités, les parlementaires nationaux, les parlements nationaux ont un rôle très important à jouer. Et là, nous pouvons également donner notre contribution. Et au niveau du Bundestag, nous pensons que les parlements nationaux, et dans cette base d'égalité avec les autres piliers représentés, devraient également comprendre et établir cette de la création de comités également. D'ailleurs, comme ceci est prévu par l'article 20. Au niveau de la COSAC, nous devons décider que le nombre de parlementaires des parlements nationaux, donc 108, et peut-être ce n'est pas l'idéal, mais nous allons essayer d'accomplir pour garantir notre représentation. Merci beaucoup pour avoir organisé cette réunion et beaucoup de réussite à la présidence portugaise. Merci. Oui, merci beaucoup, Marc, et également pour tes gentils mots. Alors, les collègues du Parlement slovène? Non, ce n'est pas le cas. Très bien, alors nous allons commencer notre débat en passant la parole à Reinhold Lopaka de l'Autriche. Est-ce que cela marche bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Très bien, on vous entend. Très bien. Alors, voici ma question. Alors, nous savons que le Parlement européen nous appuie dans cette matière, ainsi que les membres également, et pour que les parlements puissent participer. Mais je souhaiterais obtenir davantage d'informations. Pourquoi est-ce que le Conseil, par exemple, est-il contre? Comment se trouve la situation? Pour nous, il est important de comprendre combien de membres, à la fin de cette procédure, nous aurons effectivement parmi nous. Parce que nous souhaitons commencer le travail au niveau national et par conséquent, pour nous, il est important de savoir combien de membres ou alors combien de députés nationaux seront représentés. Alors, comme vous savez, en Autriche, nous avons deux chambres et par conséquent, il n'est pas facile de pouvoir intégrer les deux chambres et également l'opposition à ce travail. Alors, je répète ma question. Quand est-ce que nous saurons exactement comment est-ce que cette procédure et également combien de membres parlementaires pourront participer? Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Reinhold. Sabine Tillay, de l'Assemblée nationale française. que je salue très particulièrement.
Cher lui, cher collègue, merci beaucoup de continuer à nous informer. Moi, ma question rejoint aussi la question du collègue Reinhold, c'est-à-dire à quel moment nous connaîtrons exactement les membres des parlements nationaux pouvant participer à la plénière, et d'ailleurs quel rôle aussi dans ce cas-là pour nous, les présidents des commissions des affaires européennes. C'est une question qui se pose aussi suivant les parlements. Nous ne serons peut-être pas forcément toujours concernés. Et je me pose aussi la question, en tant que Français, avec mon collègue Jean-François Rapin, nous allons donc rejoindre le comité exécutif à partir du 1er juillet. Là aussi, comment se ferait l'articulation entre le comité exécutif, ses membres et la plénière? Et je voudrais rapidement aussi revenir sur la suggestion que j'avais fait la dernière fois, c'est-à-dire ma proposition de débattre dans le cadre de la COSAC des moyens par lesquels les parlements nationaux feront vivre dans les États la conférence sur l'avenir de l'Europe. Parce qu'il n'y a pas que la plénière qui peut assumer ce travail. Nous avons besoin aussi de descendre, je dirais, dans nos circonscriptions. Nous, à la Commission des affaires européennes, à l'Assemblée nationale, nous avions déjà organisé un grand colloque avec des think tanks les 18 et 19 mars. On vous enverra les actes. Il y a eu plusieurs commissaires européens, des parlementaires européens nationaux, des responsables, et on a déjà discuté un peu des réformes à envisager. Alors, je suggère, cher Louis, si c'est possible, que la Troïka prenne l'initiative d'envoyer un court questionnaire à chaque parlement pour lui demander les initiatives qu'il envisage de lancer dans le cadre de la conférence. Et la synthèse des réponses sera une sorte de document de référence qui pourrait être très utile pour chacun entre nous. Et peut-être pourrait-on envisager, nous, COSAC, des événements communs sortant de l'ordinaire et pourraient être lancés. Merci.
Muito obrigado, Sabine.
Merci beaucoup Sabine. Nous allons continuer avec le Parlement français. Sénateur, je passe la parole à Jean-François Rapin.
Oui, bonjour Louis, bonjour à tous, merci. Je salue particulièrement aussi Sabine, puisque sa conclusion aurait pu être mon introduction à ceci près que, effectivement, organiser d'autres événements d'ici même la présidence française me semble un peu serré, parce que le programme s'alourdit de jour en jour. Alors, sur les propositions qui ont été faites, et notamment sur les amendements que vous nous avez transmis, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est être en accord avec globalement tout ce qui est proposé. Je reviens bien sûr, mais comme tous mes collègues, et de façon insistante, voire ferme, sur le fait que les parlements doivent être représentés, et le chiffre de 4 me semblait le bon. Notre collègue autrichien a demandé des précisions sur la position du Conseil, en disant pourquoi le Conseil s'oppose-t-il. Moi, je vais un petit peu plus loin, en demandant pourquoi la Commission est-elle si discrète, c'est-à-dire qu'on n'a pas de position ferme de la Commission sur le sujet, et ce serait intéressant de savoir quel est son avis. Je pense aussi important, dans l'implication des parlements nationaux, de pouvoir participer au groupe de travail et pas seulement à la séance plénière qui, on le sait très bien, sera un grand événement. En parlant de grand événement, le 9 mai, ce sera le lancement, vraisemblablement à Strasbourg, de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Je me satisfais vraiment que ce soit à Strasbourg. Vous savez que les Français mettent un point d'honneur à ce que Strasbourg reste une place européenne forte, et je pense que c'est important, et ce serait intéressant que les parlements nationaux y soient aussi associés à cet événement. Merci, Louis.
Muito obrigado, Jean-François.
Merci beaucoup, Jean-François. Avant de passer la parole au collègue prochain, et juste pour éviter la répétition de questions, juste pour éclaircir, la prochaine réunion du Conseil exécutif se tiendra le 22 avril. d'ici à la fin de la journée d'aujourd'hui. Des propositions peuvent être données pour le Conseil exécutif et donc tous les parlements qui souhaitent le faire peuvent le faire pendant la journée d'aujourd'hui. Le Conseil, lui, se réunira donc le 22 avril avec une proposition qui sera lancée, je l'espère en tout cas, qui sera donc approuvée par le Conseil, la Commission et le Parlement. Et c'est sur cette proposition que nous allons donc nous pencher le 22. Voilà la raison pour laquelle il est important d'écouter vos opinions pour que nous puissions intervenir lors de cette réunion dans ce sens-là. Alors, avant le 22, il y aura également la présentation de la plateforme électronique, donc le 19 avril. Et cette plateforme fera ou sera la base essentielle de la participation. J'ai déjà eu l'occasion de la voir, pour l'instant elle est toujours incomplète, mais il me semble que c'est vraiment un bel outil pour répondre à plusieurs de vos questions. Ensuite, chaque parlement, chaque société civile peut organiser d'autres types d'événements, avec toute créativité. Mais quoi qu'il en soit, je prends note de ce que vient de dire Sabine, de pouvoir recueillir les informations de tous les États membres pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce que nous avons l'intention de faire. Voilà, juste quelques remarques que je souhaitais vous transmettre. Et je passe maintenant la parole à Domagoj Ajuković de la Croatie, que je salue également. Apparemment, nous ne sommes pas en mesure d'écouter notre collègue Richard Orsic de l'Hongrie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Louis, chers collègues. C'est un plaisir d'avoir ce dialogue en ce qui concerne la conférence pour le futur de l'Europe. J'appuie également les parlements nationaux et que le Parlement européen doit être également représenté dans une base d'égalité. Le Parlement hongrois, nous avons commencé avec toutes les préparations nécessaires. Et en ce qui concerne la constitution de la conférence, eh bien, je souhaitais souligner le rôle des pays candidats. La perspective des pays des Balkans occidentaux doit être également reconnue à ce niveau-là et donc j'appuie en particulier tout ce que mon collègue allemand vient de suggérer. Les parlements nationaux, à mon avis, ont un rôle fondamental pour le renforcement des traditions démocratiques en Europe. Et également dans la représentation des intérêts des citoyens européens. Et la conférence doit être également une plateforme adéquate pour que les citoyens puissent se prononcer, montrer leurs perspectives, très souvent divergentes, mais également des propositions par rapport à ces matières. Alors personnellement, je pense également, cher Président, que les leçons que nous pouvons retirer de la COVID-19 doivent également être réfléchies lors de cette conférence. La vaccination, le seul chemin effectivement de combattre le virus, plus de 30% à l'heure actuelle des citoyens hongrois ont déjà été vaccinés. Et c'est avec grand plaisir que j'annonce ces chiffres. Et notre devoir commun, c'est justement de défendre la vaccination également au niveau européen. Je souhaite un beau succès pour la présidence portugaise et merci beaucoup pour votre travail. Merci beaucoup. Merci. Je passe la parole à Dario Stefano. Juste une seconde, s'il vous plaît. Alors, le collègue Dario, qui a demandé la parole pour plus tard. Je passe donc la parole à Sergio Battelli de la Chambre des députés d'Italie.
Thank you very much, Chairperson. Can you hear me? Can you hear the interpretation?
Merci. Merci beaucoup. Ce partage d'informations est essentiel à ce stade. Comme je l'ai dit la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, les amendements proposés par la Troïka doivent prévoir ou contempler cette représentation sur même pied d'égalité des députés nationaux et des eurodéputés. Et je pense que le nombre de 4 députés par Parlement est un seuil minimum. On doit également penser à des suppléants. Je suis d'accord avec la proposition d'amendement sur l'article 19 sur l'indépendance des parlements et je suis d'accord avec la proposition d'amendement à l'article 20 concernant la création des groupes de travail. Concernant l'article 20, paragraphe 4, on doit également obtenir des clarifications sur l'accord auquel on va parvenir. L'interprète s'excuse auprès des auditeurs, mais il y a des coupes dans le son qui parvient du Parlement italien, du Sénat italien. Donc l'information arrive de manière partielle. Il est question donc des langues. Monsieur le sénateur, pense que les document et l'interprétation doit être fournie en 24 langues si l'interprète a bien compris le discours entrecoupé du sénateur italien. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Dario. Le président donne maintenant la parole à Madame Oomen-Ruijten.
Members of Parliament, then you cover 4 per Parliament, but not the 4 where we have a bicameral system. So please, could you tell us a bit more on that? Then,
ce qui concerne le système de bicaméral, qu'est-ce que vous envisagez pour les parlements donc bicaméraux? Je voudrais aussi réagir à ce qu'a proposé notre collègue allemand, donc l'inclusion des Balkans occidentaux dans les travaux de la conférence. Je pense que, comme on le fait ailleurs, ce serait opportun. Concernant les groupes de travail, en effet, je défends moi aussi la mise sur un même pied des qualités des parlements nationaux et du parlement européens en termes de représentants, et ce à tous les niveaux de d'activité, en termes également de modalités de travail, possibilité de proposer des motions, de commenter et ainsi de suite. Si vous y parveniez, ce serait extraordinaire. Merci beaucoup. Monsieur le Président, donne un petit éclaircissement en ce qui concerne la date à laquelle les décisions seront prises. Nous espérons que cela sera fait le 22 avril. Quant à la plénière, elle ne devrait pas avoir lieu dans le mois qui suivra donc la décision qui normalement sera prise le 22 avril. Donc, a priori, la première plénière devrait avoir lieu plutôt fin mai, début juin. Et bien sûr, nous allons veiller à ce que les parlements bicaméraux soient traités de la même manière que les parlements qui ne disposent que d'une chambre, en faisant en sorte notamment que les représentants soient issus tant de l'Assemblée que du Sénat, de la Chambre basse et de la Chambre haute. En ce qui concerne les pays candidats, eh bien, le règlement proposé par Guy Verhofstadt contemple la participation des pays candidats. Et quand je dis pays candidats, je ne parle pas uniquement des Balkans occidentaux, mais de tous les pays candidats. En ce sens, je vous invite à réfléchir plus en profondeur sur cette question. Doit-on faire une proposition qui contemple les Balkans occidentaux, mais qui exclut d'autres pays candidats comme la Turquie, ce qui pourrait se révéler être une question très sensible. En ce sens, je pense que la proposition de notre collègue Guy Verhofstadt serait peut-être la meilleure à envisager ici, parce que la proposition qui nous a été faite ici serait d'inviter une représentation gouvernementale plutôt que parlementaire. Donc, l'exclusion de certains pays candidats mérite quand même que l'on étudie bien tous les enjeux qui pourraient se révéler être très délicats d'un point de vue diplomatique. Concernant la question sur le Conseil et la Commission, le fait qu'ils n'arrivent pas à être d'accord lors de notre réunion, la dernière réunion, en fait, ils ne sont pas réellement d'accord, mais ils n'ont pas expliqué quelles sont les raisons de ce désaccord. Moi, mon impression, c'est que c'est une question de déséquilibre au niveau des représentations. En plénière, sont prévus 273 représentants et dont 216 seraient des députés, eurodéputés ou députés nationaux. On le sait, chacune des institutions européennes a une composition très disparate du point de vue des chiffres. La taille de la Commission n'est pas la même que celle du Conseil ou du Parlement. Donc, mon sentiment ici, c'est nombre de membres entre institutions. Il me semblerait que la Commission et le Conseil souhaiteraient réduire la représentation parlementaire, mais c'est ma sensation et je pense tout comme vous qu'il faut défendre les chiffres présentés par Guy Verhofstadt. C'est un nombre minimum pour être sûr d'avoir une représentation de chacun des parlements et de chacune des couleurs politiques de nos parlements et de nos gouvernements. Voilà. Excusez-moi de m'allonger un peu. Maintenant, je vais passer la parole à notre collègue du Parlement danois, Rasmus Nordqvist. Merci, Monsieur Capoulas-Santos, et merci à la Troïka pour tout le travail accompli pour l'organisation de cette réunion. Article 19 sur la composition des délégations. Je pense en effet qu'il y a des questions politiques qui se posent ici. C'est à chaque Parlement de nommer ses participants et l'orateur a été interrompu. L'interprète informe ses auditeurs que l'orateur a été interrompu, la connexion a été interrompue, donc on reviendra vers vous, Monsieur Nordqvist, dans quelques minutes, nous l'espérons, et je donne maintenant la parole à Guido Wolf du Sénat allemand, Bundesrat. Oui, cher Louis, chers collègues, merci Louis d'organiser donc ces réunions et après toutes les conversations que nous avons eues, j'ai un problème structurel de plus en plus saillant. La direction de cette conférence sur l'avenir de l'Europe est claire. On a toujours entendu dire, et c'est là la proposition de Monsieur Verhofstadt, qu'on doit avoir 108 représentants des députés nationaux. Et d'un autre côté, comme vous l'avez dit, la Commission estime que 108 représentants, c'est trop, et qu'il y aurait une volonté de passer, de réduire à 54, ce qui pour moi serait fatal. Cela réduirait quasiment à néant la représentation des parlements nationaux et d'autant plus des parlements bicaméraux. Dans ce sens, chère Louise, je crois qu'il faut vraiment tout faire pour arriver à concilier les différents points de vue, les différentes positions, commission, conseil, parlement. Il faut également avoir une vision claire au plus vite des positions des différentes institutions, de sorte à ce qu'on puisse, nous, de notre côté, nommer nos représentants. Comme vous le savez, nous avons un Parlement bicaméral et pour nous, c'est très important que les deux chambres soient représentées sur un même pied d'égalité. Je crois que la Troïka, Louis, doit tout faire pour arriver donc à une conciliation entre les différentes institutions. Merci. Merci Guido, nous allons tout faire pour y parvenir et à l'issue de cette réunion, je proposerai que nous réenvoyions la lettre que nous avons adressée aux institutions, une lettre dans laquelle nous avons présenté notre position. Et bien sûr, nous ferons tout pour que le 22 avril, c'est propositions et nos volontés soient prises en compte. Maintenant, je donne la parole à Monsieur McHugh du Parlement irlandais. Merci. Merci, Monsieur le Président. Vous avez un peu écorché mon nom, mais ce n'est pas grave. Pas de questions, Monsieur le Président. Juste deux petits points que je souhaite mentionner ici. Tout d'abord, rendre hommage au travail que vous avez accompli. Nous avons apprécié le compte-rendu que vous nous avez transmis sur les travaux du comité et ce qui ressort de ce document, c'est l'importance que les parties prenantes accordent à l'intervention des parlements. Et concernant maintenant la représentation de manière plus large, l'article 6 mentionne que les groupes de travail devront comporter au moins un tiers de participants âgés de moins de 25 ans. Je trouve que c'est vraiment une très bonne décision et je crois que vous avez fait du beau travail ici pour défendre cela. La Troïka a mis en avant également la thématique de l'éducation et de la migration. Et je dois dire que, fort heureusement, eh bien, le soleil brille grâce à vos travaux et j'espère vraiment que nous allons vers un bel avenir pour l'Europe avec tout cela. Merci, Joe, et toutes mes excuses d'avoir écorché ton nom. En tout cas, je pense que Joe, c'était correct. Maintenant, je donne la parole à Susana Sumelzo du Parlement espagnol. Bien, merci, Monsieur le Président. Merci, Louise, pour toutes les informations qui nous a été transmises par la présidence pour préparer cette réunion. Nous avons déjà eu quelques réponses aux questions que nous nous posions. Nous aussi, nous avons un Parlement bicaméral et notre commission pour les affaires européennes est une commission mixte, Sénat et Parlement. Donc, on ne devrait pas avoir de problème pour se mettre d'accord en ce qui concerne les représentants. Nous avons, au sein de notre commission, débattu des modalités de nomination, justement, ou de désignation des représentants nationaux. Nous aimerions que les présidents de la COSAC et la possibilité de participer à l'inauguration formelle de la conférence. Nous, en tant que représentants ou membres de la COSAC, en tout cas, merci de nous avoir remis tous les documents à temps. Nous attendons avec impatience de voir comment, à quoi va ressembler la plateforme numérique et nous allons tout faire, nous, dès qu'on aura plus d'informations, pour publier les informations au niveau de notre Parlement, au sein de notre plateforme. Et donc, ce sont des questions qui seraient urgentes de résoudre dans l'ensemble. Merci, Susana. Il me semble que maintenant, nous allons pouvoir rétablir la connexion avec notre collègue danois Rasmus. Rasmus, la parole est à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour, excusez-moi pour ce couac qui nous rappelle combien nous avons besoin d'une Europe numérique. Oui, article 19 concernant la nomination des députés. Il est très important de garantir la diversité. Comment faire en sorte que la position des différents pays soit représentée sur la base des règles énoncées dans cette proposition de règlement? C'est une question que la Troïka devra aborder et tenir en compte. Merci beaucoup, Rasmus. Il semblerait que notre collègue Dario Stefano du Sénat italien soit en mesure d'intervenir. Merci. Pour commencer, merci. Grâce à vous, nous sommes en mesure d'affiner nos propositions et notre position. Et éventuellement d'apporter des amendements ou de proposer des amendements au règlement, au projet de règlement. Premier amendement concernant la représentation des parlements nationaux, article 19. Encore une fois, je pense qu'il est important que cette représentation soit équilibrée, et ce d'autant plus pour les parlements bicaméraux, comme le cas parlement italien et tant d'autres en Europe. L'amendement proposé par la Troïka de 4 représentants par parlement national accompagné de 4 membres suppléants est une bonne proposition. La Convention sur l'avenir de l'Europe avait une règle un peu semblable et constitue en quelque sorte un précédent. Les membres de parlements nationaux étaient fortement représentés et je pense que cela doit constituer un bon point de départ, faire en sorte que nos parlements soient bien représentés. Je pense également qu'il est très important que, comme dans l'article 28, il faut qu'il y ait un débat en plénière. Nous avons aujourd'hui conclu une enquête sur la conférence au sein du Parlement italien. Cette enquête, dès qu'elle sera analysée, fera l'objet de résultats que nous partagerons avec vous. Et nous pensons qu'il est important que nous maintenions ces séances de travail à COSAC. Nous autres, du côté des parlements nationaux, nous devons aussi développer des dispositifs, des mécanismes pour échanger avec la société civile, avec les jeunes. Nous devons attirer, impliquer les jeunes, leur donner voix au chapitre, puisque l'avenir de l'Europe, ça les concerne avant tout. Merci, Monsieur le Président.
Intervention sans micro. Bonjour à tous, bonjour Portugal, bonjour Luis. Désolé parce que nous étions en train de débattre encore un plan sur la résilience et la relance également ces séances plénières. Voilà, alors tout d'abord je souhaiterais effectivement parler au sujet de la réunion du Conseil exécutif. Il me semble qu'il est très important que nous soyons bien informés et surtout d'une façon inclusive. Voilà. Donc, tout d'abord, je souhaiterais vous féliciter. Je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Et par conséquent, il est important également de comprendre et de voir et de penser également à nos amis des pays candidats, non seulement des Balkans occidentaux, mais également de la Turquie, qui est sans oublier effectivement que la Turquie est elle aussi un pays candidat. Je me joins également avec tout ce qui vient d'être dit par la représentation des parlements nationaux, donc l'égalité, je pense qu'il est vraiment fondamental d'insister sur ce point. Parce que très souvent, on nous dit que c'est uniquement le Parlement européen qui a la légitimité de représenter ses citoyens dans l'Union. Ce qui n'est pas vrai. Les parlements nationaux sont également les représentants de leurs citoyens. Et en tant que tels, ils doivent avoir exactement les mêmes statuts que les eurodéputés. Merci. Merci beaucoup, Dame Ongoif. Un plaisir de te revoir. Je passe maintenant la parole à Peter Pex de la Slovaquie. Allez-y. Malheureusement, aucun contact possible, donc je vais passer au prochain. Alors, le prochain, notre collègue Marco Czolnaski de la Slovénie. Allez-y. Bonjour, bonjour, cher Louis. Alors, pour la Slovénie, il est très important, effectivement, que les parlements nationaux soient inclus dans cette procédure. Nous avons eu un changement également à la proposition pour la conférence du futur de l'Europe, donc pour l'article 19. Effectivement, le Parlement a le pouvoir de faire l'analyse de la Constitution. Et dans le cas des parlements avec deux chambres, eh bien, le Parlement doit également réfléchir et montrer la structure parlementaire de chaque État membre, tout en remplaçant, si besoin, ou alors à moins que ce soit tout à fait impossible. Donc, les membres devaient être eux aussi définis comme n'importe quel membre titulaire. Alors, étant donné la différence des différents des parlements nationaux, il n'est pas possible chaque fois d'avoir cette même directive appliquée, mais ces structures doivent être prises en compte. Et finalement, nous appuyons également la proposition lancée par l'Allemagne pour les pays candidats avec les Balkans occidentaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Marcos. Je passe maintenant la parole à notre collègue Marcos du Bundestag.
Ja, vielen Dank auch nochmal für das erweiterte Wort.
Oui, merci beaucoup de me redonner la parole. Alors, je souhaiterais ici faire deux commentaires, tout en soulignant également notre vision. La proposition lancée par Guido, là, nous voyons les pays candidats, donc inscrits, et la société civile. Donc, ce sont les deux partenaires, pour ainsi dire. Et les parlements nationaux doivent être également impliqués. Très bien, jusqu'à présent, très bien. Alors, évidemment, il est important pour... également lancer cette procédure. Donc, je souhaitais maintenant d'attirer votre attention également sur ce fait. Peut-être pourrons-nous également avoir la possibilité d'avoir les représentants des parlements ou des gouvernants des Balkans occidentaux pour qu'ils puissent participer dans cette procédure aussi. Je pense que le Conseil exécutif doit être en mesure de pouvoir décider chacun de ces invitations de façon individuelle, c'est-à-dire une autre possibilité de prise de décision. Voilà, dernier commentaire. Nous estimons également que la dimension de la conférence est fondamentale. Plusieurs orateurs l'ont déjà bien souligné. C'est fondamental, effectivement, que nous puissions continuer à avoir 180 représentants dans les parlements nationaux et que ces parlements avec deux chambres puissent effectivement être représentés. Merci. Merci beaucoup, Marcus. Alors, j'ai encore une dernière demande de parole de Bogdan Klitsch de la Pologne.
Parece que estamos com...
Apparemment, problème de connexion également avec la Pologne. Peter Merck, qui souhaitait également prendre la parole de la Slovaquie. Je ne sais pas si on peut rétablir donc cette connexion.
Peter, nous avons son, mais...
Peter, voilà, ta caméra n'est pas branchée. Je ne sais pas si tu souhaites brancher ta caméra pour qu'on puisse te voir. Si ce n'est pas possible, eh bien, on pourra toujours t'écouter, ce qui est déjà très bien. Alors, Peter Meck, est-ce que tu m'entends? Ce n'est pas le cas non plus. Apparemment, ni le son, ni l'image. Alors, reprenons la Pologne.
Parece que continuamos com dificuldades, mas entretanto o colega...
La même chose ici, Richard Oxy de l'Hongrie qui a demandé à nouveau la parole. À toi Richard. Merci beaucoup Monsieur le Président. Juste une phrase pour dire que d'après les pays candidats et l'invitation à ces pays candidats, je suggère que le pays candidat doit être invité comme effectivement pour la séance plénière de la COSAC. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Richard. Alors, Christian Burman, du Parlement autrichien. Christian, la parole est à toi.
Lieber Louis, geschätzte Kolleginnen und Kollegen aus...
Cher Louis et chers collègues, alors de la perspective du Conseil fédéral autrichien, deux affirmations. Alors tout d'abord, je pense qu'il est vraiment très important que nos collègues du Parlement et de la société civile, également des Balkans occidentaux, puissent être inclus dans cette procédure. Notamment si nous souhaitons qu'ils puissent avoir un rôle à jouer pour le futur de l'Union européenne. Je pense que cela a beaucoup de sens de pouvoir les inclure dès le départ. Ensuite, vous dire également la déclaration lancée et les commentaires faits également par les orateurs, notamment par rapport aux différents pays avec deux chambres. Alors, elles doivent être représentées de façon adéquate pour cette conférence. Nous pensons que c'est très important pour nous ici en Autriche. Merci beaucoup. Merci à toi, Christian. Nous allons encore faire une dernière tentative avec les collègues la Pologne et Peter Meck de la Slovaquie. Alors, je demande à notre équipe de techniciens, est-ce qu'il est possible d'établir le contact ou la connexion avec nos collègues?
Infelizmente, parece que não é possível.
Bien non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je vais demander à ces deux collègues, et je m'en excuse d'ores et déjà, si vous pouvez envoyer votre message par écrit, et nous prendrons note de vos déclarations. Étant donné qu'il n'y a personne d'autre pour prendre la parole, et avant de la passer pour les restes des collègues de la Troïka qui souhaiteraient compléter mon intervention, juste pour vous rappeler ceci. Alors, tous ceux qui souhaitent avancer avec des propositions concrètes d'ici à la fin de la journée d'aujourd'hui, vous devrez le faire directement pour la présidence de cette conférence. En ce qui concerne ce débat, eh bien, je suis très heureux de voir qu'il y a effectivement un large consensus sur la plupart des questions. Et qui rejoignent effectivement nos premières revendications, et nous allons d'ailleurs continuer à lutter avec toutes nos forces. Autrement dit, une représentation en séance plénière, avec un nombre de représentants qui soit égal au Parlement européen, donc un nombre jamais moins de que 4 éléments du Parlement nationaux. Nous allons également présenter cette proposition que les pays candidats, et apparemment ce fut la conclusion de la plupart des opinions lancées, inviter donc la totalité des pays candidats pour participer à la conférence et la séance plénière de la conférence. J'attire également votre attention sur le fait que lors de la dernière conférence que nous avons eue, le comité des régions a également souligné le petit nombre, effectivement, de représentants qui lui étaient attribués. Et en tant qu'effectivement les parlements régionaux et les pouvoirs locaux devraient avoir une plus importante représentation. Voilà, c'est ça le problème, c'est que tout le monde pense qu'il devrait avoir effectivement une vaste représentation. Et ceci pose un problème. Quoi qu'il en soit, et à mon avis, il est préférable d'augmenter le nombre de membres de la conférence plénière plutôt que de réduire peut-être le nombre des parlements nationaux. Nous savons qu'en Europe, il y a des parlements avec un nombre supérieur aux 273. Le Parlement européen lui-même a une représentation globale bien supérieure. Donc, je ne vois aucune raison de limiter le nombre de membres pour la séance plénière, tout 263. Donc, s'il y a un problème, effectivement, de sous-représentation des autres composantes, eh bien, à mon avis, il serait préférable d'avoir cette représentation en alternative, donc, plutôt que de réduire la représentation parlementaire. Parce que, je le répète, 4 par parlement, il me semble, c'est vraiment le minimum que nous pouvons accepter. Sur ce, chers collègues, je ne pense pas avoir d'autres choses effectivement à ajouter. Je vous remercie également pour toutes vos contributions. Alors, entre-temps, je viens juste de recevoir l'information que Bogdan Klitsch du Parlement polonais est connecté. Donc, Bogdan, je te passe la parole. Oui, merci beaucoup pour cette opportunité également de pouvoir exprimer non seulement mes perspectives, mais également au nom de notre comité, mais aussi au nom de nos experts, remercier l'effort que la Troïka a établi ces derniers temps. Et il s'agit effectivement de la bonne occasion, des bons efforts. Et effectivement, la lettre qui doit être envoyée pour le Conseil exécutif. De notre côté, nous partageons tous les points qui sont inclus dans cette lettre. Apparemment, problème de connexion. Oui, chers collègues, comme vous l'avez constaté, nous avons encore une fois perdu la connexion avec notre collègue Bogdan. En tout cas, parmi ces mots, je pense qu'il a lui aussi exprimé son accord. Voilà. En tout cas, j'espère que c'est le cas. Très bien. Alors, chers collègues, juste pour conclure notre réunion, juste demander à nos deux collègues de la Troïka, donc le Parlement allemand et de la Slovénie, si vraiment vous souhaitez rajouter quelque chose pour cette conclusion.
Et interpreto o silêncio como... Ah. O Bundestag pediu para falar. Marcos, tens a palavra.
Bundestag, Marcos. Merci. Nous aimerions... Nous aimerions que tout ce qui a été dit aujourd'hui puisse être résumé dans un document que l'on puisse transmettre à Guy Verhofstadt, à moins qu'il sache exactement quelle est notre position à nous tous. Merci. Merci, Marcus. C'est en effet une très bonne suggestion. Et nous agirons en conséquence.
Muito obrigado, tanto que creio que podemos dar esta reunião por concluída.
Bien, je pense que nous pouvons considérer que cette réunion est terminée. Je vous remercie toutes et tous de votre participation très active et bien sûr, nous allons vous tenir au courant de ce qui se passe et bien sûr, nous convoquerons une autre réunion dès que nécessaire. Bonne fin de journée à tous, bonne fin de semaine et à très bientôt. Merci.